Vous écoutez le podcast Linguisticae, quand l'Afrique parlait latin, l'histoire oubliée de Carthage. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et nous vous souhaitons une bonne écoute. En ce moment, j'ai renoué avec une vieille passion, les langues romanes et plus spécifiquement les langues romanes disparues. Ça s'est peut-être un peu entendu dans le dernier podcast sur l'origine du roumain, qui est aussi complexe que contesté. Mon intérêt pour les langues romanes, il est tout à fait en lien avec mon cursus universitaire. Si on étudie le latin, celui d'Auguste ou de Cicéron, et si l'on étudie le français, l'espagnol ou l'italien, qui en descendent, on explore assez peu, pour ne pas dire jamais, le chaînon manquant qui s'étale de la fin de l'Antiquité à la Renaissance. Lorsque l'on se penche sur cet entre-deux, que ce soit à l'école ou à l'université, c'est toujours pour se focaliser sur le latin d'église, le latin médiéval, qui devient en réalité un rameau tout à fait à part. Ce n'est alors plus tant une langue parlée qu'une langue écrite, liturgique et élitiste. Mais qu'en est-il en revanche du latin populaire évoluant vers le français, vers l'espagnol ou vers l'italien? Et quelle direction prennent ces évolutions en Afrique, dans les Balkans, en Angleterre? C'est un point qui n'est jamais vraiment abordé, ni en cours de français, ni en cours d'histoire, ni en cours de latin. Ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, et très rarement à l'université. Alors, je m'y suis intéressé. Ma passion pour les histoires annexes, non comptées, les chaînons manquants, m'a poussé à précisément me demander ce qu'il était advenu de la langue latine de l'une des régions qui fut l'une des plus romanisées et christianisées de l'Empire romain, j'ai nommé l'Afrique. L'Afrique romaine, qui tire son nom du mot punique « affaire », désignant alors un peuple berbère de la région, correspondait à un territoire côtier à cheval sur la Tunisie et la Libye actuelles. La province s'est créée en 146 avant notre ère, peu après la destruction de Carthage, la cité rivale de Rome. Avant la domination romaine, le territoire était donc de culture berbère et punique, puisque les premiers étaient autochtones, tandis que les seconds étaient venus fonder la cité de Carthage au 8e siècle avant notre ère, depuis la lointaine Phénicie. Le territoire conquis par Rome est assez faiblement peuplé, malgré la fertilité de ses terres et de leur emplacement stratégique. L'annihilation de Carthage modifie profondément l'écosystème politique et social local. En effet, la rivalité entre Rome et Carthage, qui a duré plus d'un siècle, a conduit à une radicalisation de la position romaine. Une radicalisation bien illustrée par une citation de Caton l'Ancien, « Delenda Carthago, Carthage doit être détruite ». Et Carthage est bel et bien détruite. Sa population est massacrée ou réduite en esclavage, les restes de la ville sont incendiés, et cet événement est réanalysé aujourd'hui par certains historiens comme le premier génocide de l'histoire occidentale. On dénombre dans les 150 000 morts, les 55 000 survivants sont quant à eux asservis. Ces chiffres, qui sont parfois contestés, restent malgré tout, et ce dans toutes les estimations, impressionnants pour l'époque. C'est suite à cette annihilation que les Romains, après tant d'années de guerre et de rivalité, posent leurs valises en Afrique romaine, à la même époque que leur arrivée en Italie du Nord et en Hispanie, c'est-à-dire un siècle avant d'arriver en Gaule. Mais l'Afrique est en quelque sorte oubliée par ses conquérants. Elle est mise sous contrôle de la cité Utique, une autre cité de culture punique qui s'était ralliée à Rome durant la guerre contre Carthage, et sous le contrôle du royaume numide, de culture berbère, un état client de l'Empire romain qui lui aussi l'avait assisté dans son conflit contre Carthage. Les restes de la civilisation carthaginoise sont alors inféodés politiquement à des puissances parlant et partageant ses cultures et ses langues. Pendant près d'un siècle, les projets de colonisation romaine, qui existent malgré tout, ne sont pas concluants ni particulièrement soutenus politiquement. Les choses évoluent avec le règne personnel de Jules César. La cité de Carthage est reconstruite, elle redevient le centre administratif régional à la place d'Utique, puis elle est érigée en capitale administrative de la province d'Afrique proconsulaire en 27 de notre ère. Et c'est à cette époque que la romanisation débute vraiment. Rapidement, la ville devient prospère et attire des migrants. Elle atteint 100 000 habitants au 1er siècle, puis 200 000 au 2e siècle, et finalement 300 000 au 5e siècle. Durant la période impériale, Carthage devient et demeure la troisième cité la plus peuplée de tout l'Empire, derrière Rome, sa capitale, et Alexandrie, l'ancienne capitale d'Égypte fondée par Alexandre le Grand. Cette dernière étant surtout une cité de langue grecque, Carthage se place alors probablement aussi, à la fin de l'Antiquité, comme la plus grande ville de langue latine au monde après Rome. Son importance économique est d'ailleurs incontestable. L'Afrique romaine devient le grenier de Rome, elle exporte le blé et l'huile d'olive vers l'Italie, et elle devient synonyme de prospérité. « Ce qui est intéressant avec l'histoire romaine de l'Afrique du Nord, c'est que les colonies romaines ne sont vraiment fondées qu'à partir de la deuxième moitié du 1er siècle, presque 200 ans après la conquête, et ce notamment pour régler un problème démographique et politique. En effet, les vétérans de l'armée romaine se voyaient notamment offrir des terres agricoles pour leur retraite militaire. Cette mesure relevait du contrôle social. Ils devenaient maîtres de leur réussite économique, sans droit aucun à exiger, au nom de leur pauvreté ou de leur abandon par la puissance publique, quelque forme de soutien pécunier une fois partis. Leur redistribution sur le territoire italien empêchait également leur réunion en vue de commettre des coups d'État, comme il avait déjà été le cas par le passé, tout en étant vecteur de romanisation. Ces vétérans devenaient alors des notables locaux, occupant souvent des postes administratifs ou politiques. Néanmoins, la péninsule italienne, qui en plus d'une démographie naturellement positive accueillait désormais bon nombre d'esclaves, avait selon ce système de moins en moins de terres à offrir. Pour donner une idée, durant la guerre civile fluvienne en -41, l'aristocratie romaine s'oppose à la distribution de terres à quelque 50 000 vétérans. Cette époque coïncide grossièrement avec une nouvelle logique, celle d'envoyer les vétérans finir leurs beaux jours dans les territoires nouvellement conquis, et ce afin de servir un double but. Premièrement, limiter la pression démographique sur la péninsule italienne, et par la même occasion le morcellement de ces terres en parcelles toujours plus petites en taille, et ensuite, bien évidemment, développer les provinces plus lointaines sur le plan économique. L'Afrique s'impose alors comme une destination privilégiée. Les légionnaires y deviennent propriétaires terriens, et face à la rareté en présence des femmes venues de Rome, ils se marient localement avec les femmes berbères et puniques. Ces vétérans et leurs descendants deviennent alors, logiquement, des vecteurs de romanisation. Parmi les plus grosses cités, si l'on met de côté Carthage, on trouve par exemple Sirte, aujourd'hui Constantine en Algérie, une ville berbère romanisée sous Jules César et Auguste. On trouve Adrumète, aujourd'hui Sousse, une ancienne cité punique érigée en colonie romaine par Trajan et qui devient alors la deuxième plus grande ville de la région. Pour rester dans les cités les plus importantes, on trouve enfin Césarée de Mauritanie, aujourd'hui Cherchel, ancienne capitale berbère ayant été reconstruite selon la tradition gréco-romaine et dont la population parlait aussi bien grec que latin. D'ailleurs, un autre vecteur de romanisation, c'est le christianisme. L'Afrique est l'un des territoires romains où la nouvelle religion se diffuse le plus. Plusieurs martyrs originaires de la région deviennent des saints. Perpétue, Félicité, Augustin et sa mère Monique, et Cyprien, qui est le premier évêque de Carthage. Plusieurs figures importantes du christianisme primitif sont également des Romains africains, comme Tertullien, qui est le premier à écrire sur la Trinité. Avec toute cette poussée démographique, avec cette immigration italienne et celle de tout l'Empire pour qui le latin devient la langue usuelle, et avec la montée très forte du christianisme, l'Afrique romaine passe d'une population qui sous Auguste ne parle pas latin ou presque, et qui suit les pratiques religieuses autochtones, à une population qui au IVe siècle est quasiment intégralement chrétienne et de langue latine. À cette époque, à Carthage, on estime d'ailleurs qu'un tiers des habitants viennent, directement ou par leurs ancêtres, d'Italie, tandis que le reste est surtout d'ascendance berbère ou punique, mais romanisée. Alors évidemment, c'est pour se représenter grossièrement les choses, puisque les mariages interculturels y sont très nombreux et de nombreux migrants, comme on l'a évoqué, viennent d'autres parties de l'Empire, comme les Juifs de culture grecque, dont le rôle fut très important pour le développement du christianisme local. Tout ceci étant dit, voici le constat. La population d'Afrique romaine, et en réalité la population qui occupe surtout la Fossia Regia, qui couvre la moitié nord de la Tunisie et une partie de l'Algérie actuelle, parle latin. Et pas n'importe quel latin, le latin vulgaire, c'est-à-dire le latin populaire. Le latin vulgaire, pour rappel, c'est une langue qui diverge du latin classique, celui de l'écrit, et qui est l'ancêtre véritable des langues romanes actuelles. Le latin vulgaire, qui émerge alors vers le 1er ou 2e siècle de notre ère, avec des changements déjà perceptibles dès le siècle précédent, demeure relativement unifié jusqu'à la fin de l'Antiquité. L'un de ses vecteurs de diffusion le plus fort est l'armée, qui est grande pourvoyeuse de colons et donc de romanisation, mais le commerce et l'émigration, volontaires ou induites par l'esclavage lors des conquêtes, sont d'autres vecteurs importants. L'une des principales caractéristiques du latin vulgaire, c'est la réduction du nombre de voyelles et surtout l'absence de distinction entre les voyelles courtes et les voyelles longues, pourtant centrales dans la grammaire latine classique. Des 10 voyelles latines, on passe donc alors à 5. Sur les diphtongues, c'est-à-dire les doubles voyelles prononcées en une seule, on note quelques disparités régionales dans leur traitement populaire, mais la plupart des régions les perdent au profit de monophtongues. AE est prononcé AI puis AI en latin classique, mais E en latin vulgaire. OE est prononcé OI puis OE en latin classique, mais E en latin vulgaire. AU est prononcé AO en latin classique, mais devient O, ou plus rarement A, en latin vulgaire. Plusieurs consonnes mutent également. K, T et G, que, T, G, deviennent respectivement CH, TS et JE devant les voyelles antérieures fermées, c'est-à-dire les sons E et I. Les S et les M finaux sont également perdus, un phénomène qui a peut-être d'ailleurs commencé vers le 2e siècle avant notre ère. Ainsi, par exemple, Kaelum, le ciel, devient donc Tchelou, gestus, le geste, devient gesto. Tous ces changements induisent des confusions dans les déclinaisons, puisque les diphtongues et consonnes finales sont essentielles pour identifier le rôle syntaxique des mots de la phrase. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, le tableau des déclinaisons du latin que vous avez peut-être vous-même appris à l'école, est ainsi réduit à deux formes, rosa, rosé, que l'on trouve encore en roumain aujourd'hui. Et évidemment, le lexique s'enrichit aussi, il évolue et il se détache des formes littéraires. C'est le portrait global qui, en gros, s'étale du 2e siècle au 4e ou 5e siècle dans à peu près toutes les zones de l'Empire romain où le latin est parlé, à quelques exceptions près, mais qui ensuite se spécifie localement. La situation et la compréhension du roman africain, de la langue romane d'Afrique, posent aujourd'hui problème. Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais aujourd'hui, en Tunisie et en Algérie, on parle surtout arabe. Le roman africain n'a laissé aucun descendant, et son étude repose donc surtout sur les témoignages de l'époque. Et des témoignages, c'est vrai, on en a. Leur existence est notamment mise en valeur par Erasme qui, malgré lui, en étudiant les textes latins d'Afrique du Nord depuis la Hollande du XVIe siècle, identifie des formes et des éléments linguistiques qui l'ennuient et qu'il désigne péjorativement comme étant des africanismes. Parmi les témoignages de l'époque romaine, on a notamment Pline l'Ancien qui dénote qu'en Hispanie et en Afrique, la population utilise le terme « formacei » pour parler des murs, plutôt que le terme « murus ». À en croire l'auteur Fulgentius, il semblerait que le mois de juin, comme c'est le cas aujourd'hui en Sarde avec le mot « lampadas », ait été appelé « lampadarum dies », soit « le jour des lampes », plutôt que « junius mensis », le mois de juin. D'ailleurs, pour continuer dans ce sens, plusieurs particularités lexicales semblent être partagées avec la Sardaigne actuelle. L'usage du mot « spanus » pour parler de la robe d'un cheval tirant sur le brun clair, par exemple, rentre dans cette logique. Parmi les témoignages indirects d'une langue romane africaine parlée qui se distinguerait des autres, on a notamment les attestations selon lesquelles Septime Sévère, empereur romain originaire d'Afrique, avait un accent. De nombreux traités de médecine sont également originaires d'Afrique du Nord et ils permettent d'identifier des noms de plantes ou des noms d'animaux empruntés ou calqués sur les langues locales. Le mot zanda, par exemple, décrit localement un type d'oseille. Le mot arugia ou arugia, ver de terre, est emprunté au punique et se diffuse en Italie et en Espagne, où il a donné les descendants italiens roggia et espagnol arroyo avec le sens de tunnel, puits ou canal. Mais il est difficile d'aller plus loin. Non pas que c'eût été impossible, d'ailleurs la liste des attestations d'emprunt ou de calque est plus grande que celle que je vous ai fournie avant, mais parce que la part d'interprétation au-delà de ces éléments a été très importante en fonction des auteurs ou non. Si bien qu'aux yeux de beaucoup d'auteurs, de philologues ou de linguistes du 19e ou du début 20e, le roman africain était soit une fable, soit tout à fait identifiable, il était soit archaïque, soit particulièrement novateur, il était soit profondément influencé par les langues sémitiques, soit par le grec, et selon des considérations ou des logiques qui pouvaient parfois interroger. Certains auteurs ont par exemple justifié des traits ou des formes lexicales par le climat, par l'exubérance, par l'éducation, par le tempérament et même par l'ADN de la population en exploitant alors les clichés sur les Méditerranéens ou les Italiens, et même sur les Arabes qui n'étaient pourtant pas encore arrivés dans la région. Les formes locales que l'on a cherché à rattacher à tout prix à telles ou telles influences étaient parfois tout à fait communes dans l'Empire, et tout un travail de tri et de comparaison a dû être refait depuis les années 50 pour enfin savoir, avec plus de finesse, ce qui relevait du fantasme ou de la réalité historique. Un livre que j'ai pas mal exploité pour l'écriture de ce podcast, The Regional Diversification of Latin, en parle, ma foi, assez bien. La première chose à comprendre, malgré tout, et c'est très important, c'est que le latin d'une région ne correspond pas forcément à l'état de la langue au moment de la conquête. C'est vrai, on l'a vu, des migrations peuvent être ultérieures, et localement, des mutations linguistiques peuvent tout à fait avoir lieu. En cela, le roman africain n'est pas particulièrement archaïque. Cette vision a pourtant été défendue par des auteurs comme Veufflin, un latiniste réputé, qui expliquait alors que le latin d'Afrique était le même que celui de Caton et qu'il n'avait ensuite plus évolué. Cette position est parfois encore défendue en dehors de la linguistique historique, mais elle n'est plus du tout acceptée aujourd'hui. C'est-à-dire que cette position revient à nier le fonctionnement même du langage et à nier le substrat linguistique présent, c'est-à-dire l'influence exercée par les anciennes langues de la région. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que le roman africain, en bonne langue importée, témoignait de l'origine de la majorité de ses locuteurs. C'est-à-dire, finalement, qu'on y trouvait vraisemblablement des emprunts berbères et puniques en nombre. Par exemple, de nombreuses inscriptions funéraires contiennent des noms déclinés au vocatif, là où l'on attendrait à la place un nominatif. Le vocatif, c'est le cas du latin qui sert à interpeller quelqu'un, et il était vraisemblablement confondu par les locaux avec la forme de base des noms, celle qui indique qu'ils sont sujets de l'action. Ce phénomène tout particulier a été identifié comme étant un trait dialectal d'influence punique. Les puniques ne comprenaient pas la différence entre le vocatif et le nominatif, Ils utilisaient alors la première forme à la place de la seconde pour certains noms. Il existe des textes très importants pour comprendre les interférences entre les locuteurs du punique, du berbère et du latin dans la région. Les textes de Bunjem, du nom d'un oasis où l'on trouve un site archéologique du 3e siècle. Grâce à eux, à cette époque et dans cette région, il a été démontré que 11% des noms de personnes sont d'origine punique ou berbère et que 45% des noms de personnes sont spécifiques à l'Afrique du Nord. Il faut néanmoins savoir que dans cette population, c'est-à-dire les soldats ayant eu contact avec les tribus des confins de l'Empire, qui parlaient latin mais aussi probablement les langues historiques locales, les empreintes ne sont pas forcément symptomatiques de la langue parlée dans le reste de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, l'influence a été réciproque entre le berbère encore parlé aujourd'hui de nos jours en Afrique du Nord et le latin de l'époque. Le mot « asnus », par exemple, signifiant « âne » en berbère du sud du Maroc, est clairement un emprunt au latin « asinus ». Parce que c'est vrai qu'il est possible que la différence entre la ville et la campagne, ou plutôt ici la cité et le désert, elle devait probablement être très marquée. Cependant, l'Afrique du Nord a donné de nombreux auteurs de langue latine assez divers sur le plan sociologique, ce qui témoigne malgré tout d'une romanisation assez avancée, y compris dans les zones les plus rurales. L'Afrique du Nord était aussi, durant toute la fin de l'Antiquité, un grand centre de traduction du grec vers le latin, et un grand centre éducatif, notamment pour la rhétorique. Sur la fin de l'Antiquité, les invasions germaniques mettent fin à la domination romaine. Les Vandales envahissent l'Afrique du Nord et y règnent de 435 à 534, même s'il est fort probable que l'impact linguistique ait été très minime, comme ce fut le cas d'ailleurs en Espagne, en Italie ou en Occitanie. Le territoire est ensuite récupéré par les Byzantins, qui privilégient le grec au latin dans leur empire, avant de tomber sous le joug des arabo-musulmans au 7e siècle. Carthage est alors détruite, et la capitale régionale est déplacée à Tunis, fondée en parallèle par les conquérants. À partir de cette époque, les traces linguistiques deviennent très rares et les témoignages également. On sait seulement que l'arrière-pays échappe à l'islamisation et reste relativement autonome, voire indépendant. Des royaumes berbères s'y forment, tandis que la côte, quant à elle, est beaucoup plus sous pression linguistique et religieuse. Si l'on sait que l'on y trouvait encore des chrétiens vers le XIIe siècle, la langue latine africaine avait probablement déjà disparu, ou presque. La situation linguistique de l'Afrique du Nord ne pouvant pas être connue avec certitude, elle est souvent mise en comparaison avec celle d'Alexandrie, en Égypte, où la langue grecque et le christianisme se sont éteints à peu près à la même période. La question que l'on peut se poser est alors la suivante. À quoi aurait ressemblé la langue romaine d'Afrique si on l'avait laissée évoluer? Peut-on avoir des pistes? Eh bien, à vrai dire, oui. On ne peut évidemment rien savoir avec certitude, on est clairement dans un scénario de fiction, mais de nombreux indices permettent néanmoins d'envisager des directions. À supposer que la conquête arabo-musulmane n'ait jamais eu lieu, la langue romane d'Afrique du Nord aurait peut-être suivi une évolution similaire à celle de la Sardaigne ou du sud de l'Espagne. Et quand je dis sud de l'Espagne, ce n'est évidemment pas l'espagnol du sud de l'Espagne actuelle. La langue latine y a aussi quasiment disparu avec la conquête arabo-musulmane, et les dialectes actuels du sud de l'Espagne sont en réalité originaires du Nord, apportés par la Reconquista. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'Afrique du Nord a été profondément romanisée, plus intensément et plus concrètement que la moitié nord de la France aux mêmes époques. La Méditerranée ne représentait pas du tout une frontière, mais au contraire un espace de communication privilégié, permettant et facilitant les échanges commerciaux avec la péninsule italienne. Cette région était alors un centre culturel romain important et l'un des principaux foyers du christianisme. Logiquement, et compte tenu de cette histoire et jusqu'au Moyen-Âge central, la reconquête de Carthage était un sujet abordé en Europe et à Byzance. Rappelons-nous toujours que les territoires sont mouvants et que leur perception l'est tout autant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.